qu'est-ce qui fait courir les pays francophones pour pouvoir être membre du Commonwealth sans pour autant être à leur place? Mais il faut dire qu'il peut y avoir des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. Bon, au niveau des facteurs endogènes, il faut reconnaître que aujourd'hui, sûrement, les pays certains pays francophones d'Afrique, notamment le Rwanda et puis aujourd'hui le Togo et le Gabon, sont motivés par le fait de vouloir peut-être doter leurs prestations sur le plan économique. Et de ce fait, il leur faut diversifier les partenaires économiques. Je pense que ça peut être une des premières raisons qui motive ces pays à frapper aux portes du Commonwealth, au-delà de la francophonie exactement. Et il y a aussi des raisons exogènes. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une certaine unité qui s'est installée entre plusieurs pays francophones et le monde occidental, notamment leur ancienne puissance coloniale, la France. Il y a des malentendus par rapport à la politique pratiquée, et donc je pense que ça peut être non seulement une façon de diversifier les partenaires économiques, mais ça peut être aussi une espèce de chantage géopolitique où ces pays voudraient attirer l'attention de la France, si tant est que cette France ne les écoute pas. Lorsque nous sommes dans une situation de normalisation des relations diplomatiques, est-ce qu'il ne va pas falloir procéder par un chantage géopolitique pour pouvoir rejoindre l'espace du Commonwealth? Mais toujours est-il que cette façon de faire doit pouvoir interpeller la France quant à son orientation politique aujourd'hui au niveau des pays d'Afrique francophone.
Alors quand on évoque le mariage de raison particulièrement, que pourraient gagner concrètement les pays francophones qu'ils n'ont pas déjà dans le giron francophone, leur espace d'origine?
Bon, moi je pense que ce que peuvent gagner les pays francophones, c'est d'abord une plus grande considération de la part, par exemple, de leur premier partenaire diplomatique, géostratégique, qui est la France. Donc, à partir de ce moment, je pense que la France peut être amenée à revisiter ses relations avec ses anciennes colonies, première chose. Deuxième chose, ces pays peuvent aussi gagner dans la visibilité diplomatique mondiale, en ce sens que, bon, en s'alliant un peu, en s'ouvrant les portes du monde anglophone, eh bien, ces pays pourraient donc multiplier des partenaires, pourraient diversifier des partenaires économiques. Et on sait que, en même temps, la langue anglaise est la langue du business à travers le monde. Et en s'ouvrant au monde anglophone, eh bien, ces pays pourraient attirer non seulement beaucoup plus de touristes, mais aussi pourraient attirer les grandes firmes des pays anglophones comme la Grande-Bretagne, le pays du Galles, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Donc, je pense que l'espace anglophone paraît beaucoup plus vaste aujourd'hui pour des pays francophones d'Afrique que l'espace de la francophonie. Donc, de ce point de vue, il y a non seulement des motivations, des facteurs de projection de puissance pour ces pays anglophones au niveau des pays d'Afrique francophone. Et donc, de ce point de vue, il y a des gains diplomatiques, il y a des gains géostratégiques, il y a des gains économiques pour ces pays. Et puis, il y a aussi une manière d'attirer l'attention de la France par rapport à la revisitation de sa politique aujourd'hui. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a une autre puissance ou bien un autre groupe qui frappe à la porte de l'Afrique, c'est le groupe sino-russe. La Chine, tant bien que mal, est sérieusement bien implantée dans ces pays aujourd'hui, avec sa politique d'un partenariat gagnant-gagnant. Il ne reste pas moins que dans le domaine militaire, la Russie aujourd'hui s'est installée dans certains pays, avec le groupe militaire privé Wagner en Centrafrique, au Mali aujourd'hui. Il y a d'autres pays qui sont en voie de signer ces accords, on parle de Madagascar, du Cameroun. Donc, bref, c'est à la France aujourd'hui, au monde occidental, de pouvoir réorienter la politique au niveau, par exemple, de l'espace francophone d'Afrique, pour que finalement ces pays ne cherchent pas tous à se sauver pour frapper aux portes du monde anglophone, notamment le Commonwealth.
Alors, comment le facteur linguistique peut passer de handicap à avantage dans ce commerce?
Oui, le facteur linguistique peut passer du stade avantageux au stade handicapant. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la plupart des affaires, la plupart des échanges commerciaux se déroulent beaucoup plus facilement en langue anglaise. Et donc, pour les pays d'Afrique francophone, s'ouvrir au monde anglophone est un gain économique important, en ce que la langue anglaise est la langue des affaires à travers le monde, ce qui n'est pas le cas de la langue française, qui, tout aussi étant une langue importante, trouve quand même certaines limites quant à la réalisation de ces échanges économiques. Et je pense qu'en plus d'avoir le français comme langue naturelle aujourd'hui, les pays francophones veulent jouer sur deux tableaux, c'est-à-dire le tableau de l'espace francophone, mais aussi le tableau de l'espace anglophone, qui leur permettra donc une diversification des partenaires économiques, que ce soit en termes interétatiques qu'en termes des grandes firmes et des grandes entreprises à travers le monde. Donc la langue anglaise leur paraît plus pratique que la langue française.
Est-ce que ce mouvement vers le Commonwealth, le bloc anglais, va aller en s'amplifiant ou c'est juste un effet de mode?
Bon, je ne peux pas affirmer que c'est un effet de mode parce qu'on a quand même vu d'abord le Rwanda aujourd'hui et le Rwanda qui a adopté l'anglais comme langue officielle après les événements qu'on connaît, les événements malheureux de 1994 avec la chute du président Habyarimana et l'arrivée du RPR de Paul Kagame au pouvoir avec ce qui en est suivi, qui est regrettable aujourd'hui, le génocide du Rwanda. Donc le Rwanda a fait une démarcation de l'espace francophone en s'alliant à l'espace francophone et l'anglais aujourd'hui est une des langues les plus parlées, bien entendu avec le français au niveau du Rwanda. Bon, maintenant, il se trouve que plusieurs pays veulent suivre l'exemple du Rwanda, peut-être en remarquant aussi l'accélération de la transformation du Rwanda. Plusieurs pays peuvent être tentés de croire que le fait que le Rwanda se soit ouvert à l'espace anglophone a été pour quelque chose dans cette accélération de la transformation du pays de Paul Kagame. Donc, de ce point de vue, je pense que ces pays francophones qui tentent de rejoindre l'espace anglophone, non seulement procèdent là par un avertissement ou un chantage géopolitique, mais aussi au-delà de cela, il y a que l'espace anglophone leur permet de diversifier les partenaires en affaires, les partenaires économiques. Bon, maintenant, c'est à la France de prendre le sens de la mesure par rapport à cet état de fait, de voir une tentative de désagrégation de son espace d'influence qu'est l'espace francophone. Et à ce niveau, je pense, l'organisation de la francophonie, la France, le Québec et bien d'autres grands espaces, la RDC, la République démocratique du Congo, qui sont des grands pays d'expression francophone, doivent pouvoir se réunir, par exemple, lors des sommets de la francophonie ou lors des sommets France-Afrique, pour pouvoir parler véritablement des mesures qu'il y a à prendre pour que l'espace francophone reste solidaire. Entre autres, on peut entrevoir, par exemple, une annulation, une remise de la dette des pays africains. Il faut que la France fasse des gestes forts qui prouvent sa solidarité envers ses anciennes colonies pour que ce mouvement qui commence aujourd'hui avec le Rwanda, avec peut-être le Togo et le Gabon qui ont postulé, qui ont déposé leur candidature, que ce mouvement ne fasse tache d'huile, que ce mouvement ne constitue un effet domino de la plupart des pays d'Afrique francophone.